Bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question assez fascinante. Comment les grands modèles de langage, les fameux LLM, comment ils se situent face aux meilleurs programmeurs humains?
Oui, et pour ça, on s'appuie sur une étude qui présente Live Code Bench Pro. C'est un nouveau banc d'essai spécifiquement conçu pour évaluer leur raisonnement algorithmique.
D'accord.
L'objectif, c'est de voir où ces IA brillent et où elles peinent un peu plus face à des défis de programmation compétitive vraiment complexes.
Et avec une analyse rigoureuse, j'imagine.
Tout à fait, et surtout, point clé, sans contamination des données, pour être sûr que le modèle n'a pas déjà vu la solution pendant son entraînement.
Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'il a de si spécial, ce banc d'essai, Live Code Bench Pro?
Il utilise des problèmes réels qui sortent tout juste de compétitions de haut niveau. On parle de Code Forces, de l'ICPC.
Ah oui, du très haut niveau.
Exactement. Et ils sont collectés en temps réel, c'est-à-dire avant même que les solutions soient publiques. Donc ça garantit vraiment qu'il n'y a pas de fuite d'informations vers les modèles.
Ah. Et comment sont classés ces problèmes, justement? Juste pas de difficulté.
Pas seulement. Il y a la difficulté, oui, facile, moyen, difficile, mais il y a aussi une classification selon le type de raisonnement cognitif principal.
C'est-à-dire?
Est-ce que le problème repose surtout sur la connaissance, genre structure de données, théorie des graphes, sur la logique pure, programmation dynamique, combinatoire, ou sur l'observation fine, l'intuition, algo-glouton, théorie des jeux, problème ad hoc?
D'accord, c'est intéressant ça. Et pour la comparaison avec les humains, comment on fait pour que ce soit juste?
Alors ça, c'est une autre innovation importante. Ils utilisent les classements Elo.
Ah, comme aux échecs.
Exactement. Ou comme sur Code Forces, d'ailleurs. Ça donne un score de compétences qui évolue en fonction des succès, de la difficulté des problèmes résolus. C'est beaucoup plus fin qu'un simple pourcentage de réussite.
Oui, ça prend en compte contre qui ou quoi on gagne. Donc les résultats, ça donne quoi concrètement? Où est-ce qu'ils sont bons, ces LLM?
Alors, les modèles comme OpenAI 4 Mini High ou Gemini 2.5 Pro, ils performent très bien sur les problèmes basés sur la connaissance.
OK.
Tout ce qui est application directe, d'algo connu, structure de données, théorie des graphes, là, ils sont forts. Ils se débrouillent bien aussi sur la partie logique, programmation dynamique, combinatoire.
J'allais dire, il y a forcément un mais.
Bah oui, le point faible, c'est assez net, ce sont les problèmes basés sur l'observation.
C'est-à-dire ceux qui demandent plus d'astuces.
C'est ça, plus d'intuition, de flair, trouver un algo glouton qui n'est pas évident, analyser une situation de théorie des jeux ou résoudre ces fameux problèmes ad hoc où il faut voir la petite astuce. Là, ils sont nettement moins à l'aise.
Intéressant. Ça veut dire qu'ils appliquent bien les recettes, mais ont du mal à créer une recette nouvelle, en quelque sorte. Est-ce qu'on voit ça dans les types d'erreurs qu'ils font?
Tout à fait. Si on regarde de près, par exemple avec le modèle O3 Mini, on voit que leurs erreurs sont souvent conceptuelles.
Ah oui.
Oui, ils se trompent sur la logique même de l'algorithme, où ils font une mauvaise lecture, une mauvaise observation du problème. En revanche, et c'est un peu paradoxal,
Quoi donc?
ils font beaucoup moins d'erreurs bêtes d'implémentation que les humains. Les erreurs de syntaxe, les variables mal initialisées, ça arrive moins souvent.
D'accord.
Par contre, un autre souci, c'est qu'avec l'évaluation par API, ils ne peuvent pas tester leur code sur les exemples fournis avant de soumettre, contrairement à un humain qui va compiler et tester.
Ah oui, ça doit coûter cher ça, hein? Ça explique pas mal d'échecs sur des cas simples, j'imagine.
Probablement oui.
Et si on leur donne plus de tentatives, est-ce que ça aide, ce fameux pass at K?
Oui, ça mesure la probabilité de réussir en cas essai. Et effectivement, multiplier les essais, ça améliore nettement les scores Elo. A4 Mini, par exemple, passe d'un Elo d'environ 1800 avec un essai à plus de 2300 avec 10 essais.
C'est une belle progression.
C'est significatif, oui. Mais même avec 10 essais, les problèmes vraiment difficiles se classaient à plus de 3000 Elo.
Ce que même les cadres humains trouvent ardu.
Voilà. Cela reste hors de portée des LLM actuels. Il y a encore un fossé.
Et la fameuse chaîne de pensée, Chain of Thought, le fait de leur demander de détailler leur raisonnement, ça change quelque chose?
Alors, l'étude a comparé ça aussi. Pour certains types de problèmes, oui, ça aide. Surtout pour la combinatoire ou les problèmes basés sur des connaissances structurées, on voit des gains d'élo parfois importants.
Mais.
Mais pour les tâches qui demandent justement de l'observation, de l'intuition, théorie des jeux, ad hoc, glouton, l'amélioration est minimale, voire nulle.
Donc ça montre bien les limites actuelles de ces méthodes de raisonnement pour la partie créative, intuitive. Les élos des modèles ont légèrement fléchi. Alors, est-ce que c'est parce que les problèmes sont conçus pour contrer les IA ou juste une évolution naturelle? Difficile à dire.
Et le point sur les outils externes est crucial. Cette évaluation, c'est brute, sans accès à un terminal pour compiler, tester, etc. Or, on sait que certains modèles, quand ils ont ces outils, obtiennent des scores bien plus élevés. C'est important de le garder en tête.
D'accord. Alors, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, quel est le message principal ?
Je dirais que ça dessine une frontière assez claire. Les LLM sont devenus d'excellents implémenteurs. Ils savent appliquer ce qu'ils connaissent, ils génèrent du code qui marche, souvent plus propre que celui des humains d'ailleurs.
Mais
la vraie innovation algorithmique, cette capacité à trouver une solution radicalement nouvelle ou à faire preuve de perspicacité face à un problème qui demande une observation subtile, ça reste encore majoritairement humain. L'écart avec les tout meilleurs programmeurs est toujours là.
Donc, d'un côté, des progrès énormes sur l'application des connaissances, mais de l'autre, la créativité pure en algorithmique complexe reste un défi.
C'est ça. La vitesse de progression est incroyable, mais ce saut qualitatif vers l'intuition profonde, vers la génération d'idées vraiment originales face à l'inconnu, surtout celui qui demande de voir quelque chose de non évident, c'est une autre paire de manches.
Fascinant.
Et peut-être une dernière pensée pour la route. Si ces modèles sont si bons pour appliquer des connaissances structurées et suivre des logiques établies, comment pourrait-il un jour développer cette capacité d'observation, cette intuition créative, cette faculté à repérer l'astuce, le détail qui change tout, là où le savoir seul ne suffit plus ? C'est sans doute là que se trouve le prochain grand défi pour l'IA en matière de raisonnement profond.